Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternante pour ce nouvel épisode de Il était une fois un écrivain, en compagnie de Valérie Mazot. Alors, le menu aujourd'hui, Valérie, bonjour.
Bonjour Daniel. Alors, au menu, un écrivain de notre cru. Voilà. D'ailleurs, on ne sait pas toujours qu'il est de par chez nous, cet auteur qui a été vraiment célébré lors du prix Femina 2012. On va parler aujourd'hui de Patrick Deville.
Voilà. Patrick Deville, également meilleur roman français en 2011, et puis quelqu'un qu'on connaît bien dans la région, tu l'as dit, qui est aussi le directeur de la Maison des écrivains et traducteurs étrangers de Saint-Nazaire. Quelqu'un donc de très intéressant, quelqu'un qu'on connaît, bien sûr. Si vous vous intéressez à la littérature, le nom de Patrick Deville n'est pas inconnu, d'autant plus qu'on voit que depuis un certain nombre d'années, c'est un auteur qui monte, mais on peut connaître un auteur sans avoir lu ses livres, et on va vous encourager justement à travers la présentation de deux d'entre eux, de vous donner envie de découvrir Patrick Deville.
Oui, Patrick Deville, alors on peut peut-être commencer par son enfance justement dans la région. Hein, tu as retrouvé un très bel article, hein, Daniel, sur son enfance ici.
Voilà, hein. C'est juste un mot, c'est sur la dernière publication du magazine Armen, hein, où il y a donc un article sur Patrick Deville intitulé « Derrière la ligne d'horizon », les textes sont de Alain-Gabriel Monod. Alors c'est sur l'ensemble, c'est pas seulement sur sa jeunesse, mais il revient effectivement sur sa jeunesse, sur ses écrits bien sûr, et effectivement sur la maison des écrivains et des traducteurs qu'il dirige aujourd'hui à Saint-Nazaire.
Oui, Patrick Deville, en fait, a été très rapidement dans cet univers littéraire. Hein. Il parle de son père, d'ailleurs, hein, qui avait déjà voilà, une attirance, un goût littéraire, et notamment aussi pour le théâtre. Hein.
Voilà, mmh. Justement, oui, très intéressé par le théâtre, puisque donc Patrick Deville était installé de l'autre côté de la Loire. Hein. J'allais dire, il fallait franchir le pont de Saint-Nazaire. Non, lui, il a franchi la Loire sur le Bac, puisque il habitait donc près de Mindin, hein, dans un lazaret. Hein, c'est dans un endroit où on mettait un peu en quarantaine les marins, notamment les marins et les militaires qui revenaient de l'expédition du Mexique. Hein, ça, c'était au 19e siècle. Et ensuite, ce lazaret a été transformé en une sorte d'hôpital psychiatrique. Et le père de Patrick Deville s'occupait de la partie théâtre de cet établissement. Donc on peut imaginer effectivement qu'il a été baigné dans la littérature grâce à son père.
Voilà, donc de la littérature du côté de son père, dans un lieu déjà très imprégné du voyage, de la maladie, de la médecine. Hein, et là, après, on parlera justement de peste et choléra pour lequel il a reçu le prix Femina. Donc, complètement déjà dans cet univers de grands voyageurs et de chercheurs, hein, un petit peu fous à cette époque, parfois d'ailleurs en conflit après avec les colonisateurs français, hein, tu en parleras pour le Cambodge notamment. Donc Patrick Deville finalement a grandi dans ce jus et est resté, aujourd'hui il a 55 ans, et il est complètement encore dans cet univers. Et peut-être encore plus que jamais, où il voyage et où il nous fait voyager à chaque roman.
Oui. Revenons un peu, puisque c'est vrai qu'on n'a pas souvent beaucoup de renseignements sur lui au départ. Hein, savoir qu'il avait quand même des études littéraires à Nantes, hein, dans un lycée nantais. Ensuite, il a aussi étudié la littérature à l'université de Nantes. Il deviendra même enseignant, hein, par la suite, puisqu'on le retrouve aussi à enseigner dans le même lycée dans lequel il avait fait ses études, hein, voilà.
Oui, donc CAPES, voilà, un beau parcours, hein, universitaire, avec de l'enseignement effectivement ici, et puis assez rapidement il est parti. Il avait cette envie de découvrir, de voyager de façon intellectuelle aussi. Hein, et il a aussi enseigné du coup le français dans les pays qu'il a pu donc visiter et dans lesquels il a séjourné quand même de nombreuses années au total. Hein, que ce soit le Maroc, Nigeria et puis l'Asie aussi, bien sûr.
Je suis allé un peu vite peut-être dans la présentation là avant, parce qu'en fait il était devenu, il a un parcours assez atypique, hein, Patrick Deville, hein, devenu attaché culturel dès l'âge de 23 ans. Hein, il découvre le sultanat d'Oman, le golfe Persique. Après, il y aura même effectivement le Nigeria, hein, dans lequel il ira également. Hein. Il passera 2 années également en Algérie. Et puis, il a un petit problème, c'est que la philosophie l'intéresse énormément. Hein, et ça, c'est ça qui va le ramener justement sur Nantes, où il va décider d'apprendre la philosophie donc à l'université de Nantes. Et c'est ensuite qu'il enseignera, je ne vais pas dire de bêtises, donc au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, dans lequel il avait fait ses études. Ce n'était pas dans un lycée nantais. Je m'en excuse pour l'auteur.
Voilà, avec aussi quelques séjours en Amérique du Sud, hein, notamment l'Uruguay et puis Cuba. Et puis bien sûr l'Asie, hein, dont on va reparler. Donc on est vraiment véritablement autour d'une personnalité de voyageur, hein, qui voyage pour comprendre, pour aller voir aussi souvent ce qu'il se passe, et pas seulement faire des recherches en bibliothèque lorsqu'il construit une histoire.
Oui. Alors on pourrait continuer à voyager avec lui, hein, puisque il a été également aux États-Unis, hein, il a parcouru l'Europe, il a été, tu l'as dit, à Cuba, hein, dans beaucoup de régions du monde. On peut se demander même, et c'est pas fini, puisque dans ce qu'il dit à la fin de l'interview qui est très récente, qui date d'il y a quelques semaines, où il a déjà des projets d'écriture par rapport à des voyages futurs.
Oui. Donc c'est vrai qu'il est à quai à Saint-Nazaire. Et d'ailleurs, quand il parle de Saint-Nazaire, il est vraiment imprégné de cette ville. Hein. Il aime bien sûr l'ouverture sur le monde. Et puis le côté aussi portuaire ouvrier. Il aime regarder les grues. Voilà. Il aime la mer l'inspire aussi pour ce côté laborieux travailleur qu'on retrouve bien dans l'univers de chacun de ses romans.
Complètement. Hein, oui. C'est ce qu'il indique, hein. D'ailleurs, cette envie irrépressible de voyager. Hein. Il a énormément la bougeotte, mais il a une grande fidélité, bon, de par son poste déjà là à Saint-Nazaire. Et cet attachement effectivement à la mer, cet attachement à la Bretagne qu'il connaît bien, puisque je crois qu'il l'a fait étant jeune, il connaissait très bien la région des Abers, donc dans le nord du Finistère où il pratiquait la voile. Donc il a un gros attachement aussi pour la Bretagne.
Oui, voilà, un pied à Saint-Nazaire et dans toute la Bretagne, et puis toujours un pied à l'autre bout du monde, hein, parce que là, notamment sur l'Asie, voilà, on va parler du Cambodge, notamment, et on comprend, hein, qu'il y a vécu, qu'il y a ressenti beaucoup d'émotions, et c'est vraiment ces émotions que l'on retrouve intactes dans ses livres, avec une écriture à la fois très très enlevée, un peu dépouillée, et en même temps très riche de documentaires, de descriptions. On y est, quoi.
Hein. Oui, absolument. Alors, il y a forcément toujours une base historique, hein, dans les ouvrages qui l'inspirent, sur lesquels il travaille. On verra qu'en fait, il aime déjà... Bon, il cible un peu ses voyages. Il va dans le but de... Bon, il sait pourquoi et sur quoi il va écrire. Donc, il va dans ces pays où il va sur le terrain, il rencontre des gens qui ont pu vivre, du moins avoir vécu ou avoir des souvenirs des événements dont il va parler. Il y a un gros travail aussi en bibliothèque, hein, de lecture avant, et après, bah, c'est la mise en place de son roman. Et puis la troisième partie, c'est l'écriture qui est assez rapide chez lui, en fait, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une base très 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 solide dans tous ses ouvrages. Et les derniers, notamment, il le dit dans cette interview, c'est que ils démarrent tous, on va dire, vers le milieu du 19e siècle. Hein, on verra pour Kampuchea, c'était 1860, et qui nous mène jusqu'à la période actuelle ou à une période contemporaine, dans les années 40, je crois, pour Peste et choléra, dont tu vas parler.
Oui, donc à chaque fois, en plus d'un personnage qui est toujours assez extraordinaire, hein, on vit toute une fresque d'histoire, donc avec quelques mots seulement, Patrick Deville a cette capacité, voilà, en quelques mots, quelques phrases, de brosser un contexte historique dans lequel sont les personnages, et qui font qu'on va vraiment traverser le temps, sur un roman, on va traverser 100-150 ans avec les événements marquants de cette période. Donc c'est aussi un grand voyage historique à chaque fois.
Oui, absolument. Hein. Bah, peut-être qu'on peut déjà entamer un petit peu ce premier livre qui est le dernier, hein, le dernier publié qui est Peste et choléra et que tu as lu, Valérie.
Voilà, Peste et choléra, donc prix Femina 2012 notamment, qui est vraiment un livre qui rend hommage à Alexandre Yersin, qui est plus ou moins connu.
C'est un peu, je t'interromps là, mais c'est vrai que dans les autres livres, notamment Kampuchea, c'est pareil, il y a des personnages dont on a entendu parler, mais qui ne sont pas des personnages forcément très très connus, et bon, il aime à les présenter parfois en bien ou en mal, hein, mais ça nous permet quand même d'avoir des renseignements sur des personnages peu connus, hein, qui ont souvent gravité à côté d'autres personnages plus importants. Oui. C'est le cas d'Alexandre Yersin.
Voilà, Alexandre Yersin qui fait partie à la fin du 19e siècle d'une équipe de jeunes chercheurs autour de Louis Pasteur. Louis Pasteur qui est déjà vieillissant, avec plein de jeunes recrues, alors venus de France et d'ailleurs, Alexandre Yersin est suisse. Bon, c'est pas très loin, mais c'est déjà une autre culture. Et quand il arrive, c'est à peu près 1887-90, il arrive donc autour de Louis Pasteur et il va faire des découvertes très importantes. Il va rapidement prendre la poudre d'escampette parce que voilà, il a envie d'aller découvrir le monde, d'aller voir ailleurs et d'aller voir sur place. Donc c'est très intéressant parce que on apprend vraiment l'importance de ce personnage, hein, qui après va découvrir, donc faire des découvertes médicales très importantes, fondamentales, notamment le bacille de la peste, qui va permettre hein, de soigner des premiers pestiférés. Enfin voilà, donc un personnage international en fait très marquant. Et que l'on découvre complètement, parce que souvent, voilà, dans l'ombre d'un grand homme qui était Louis Pasteur, dans cette équipe, il y en a eu d'autres. Et Patrick Deville a cette capacité à nous présenter le personnage avec son côté complètement héroïque et en même temps très discret.
Oui. Il était de ces chercheurs qui sont allés sur le terrain et qui couraient même des risques graves en allant sur notamment quand on parle de la peste et du choléra, qui sont des fléaux terribles, et d'aller justement dans les lieux du monde où ces maladies sévissent.
Voilà, donc on découvre en fait tout un pan de notre histoire, alors médicale, alors l'histoire en elle-même, la grande histoire aussi, ce qui se passe dans le monde à cette période-là, quels sont les grands personnages qui se croisent. Donc on a en fait une écriture de Patrick Deville qui est extrêmement riche parce que c'est à la fois romancé, mais extrêmement aussi documenté, ce personnage, Alexandre Yersin. Il l'a rencontré en consultant d'innombrables lettres, souvent consignées à l'Institut Pasteur. Donc ce sont en fait des centaines d'heures de recherche et de retranscription pour entrer dans la peau du personnage, qui est un personnage réel.
Oui, on peut faire le parallèle immédiatement, même si je développerai un peu ce livre Kampuchea après la pause musicale, mais c'est vrai qu'ici, c'est tout à fait identique. Hein. Patrick Deville part d'un personnage qui s'appelle Henri Mouhot. Henri Mouhot, je dirais que quasiment personne le connaît. Henri Mouhot, en 1860, c'était un naturaliste et explorateur français, hein, qui, dans ses recherches, on retrouve dans la jungle cambodgienne, il découvre les temples d'Angkor, qui sont des structures magnifiques, hein, qui étaient c'était le lieu où l'empire Khmer avait son quartier général. Hein. Il découvre ces ruines, et à partir de là, déjà tout au long de son livre, Patrick Deville part, au lieu de citer une année, c'est l'année avant Henri Mouhot, c'est-à-dire les années avant 1860 et les années après Henri Mouhot, donc après 1860. Donc c'est ce personnage-là, on va dire inconnu pour beaucoup de gens, que démarre ce livre. Et ensuite, on côtoie tous les... Alors je dirais à la fois les explorateurs, et ensuite, on fera peut-être la différence, les explorateurs et les colonisateurs, ensuite, de toutes ces régions du Cambodge, du Vietnam, du Laos, de la Birmanie. Hein, et gravitent aussi plein d'auteurs qui ont été dans cette région-là. Donc On essaiera de développer ça un petit peu dans quelques minutes. On se prend une petite pause musicale. Juste un mot, on a appris au moment où nous enregistrons cette émission la disparition d'un grand chanteur, hein, Moustaki, ouais, qui est décédé. Et donc, on va l'écouter.
La fille près de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or comme une araignée dans sa toile. Moi j'en appelle à mon étoile qui me fera trouver le nord. Les bateaux reposent encore dans les eaux profondes du port, épuisés par leur long voyage. Moi j'en appelle au vent du large qui me fera quitter le bord. La nuit que déchire l'aurore n'est plus que l'envers du décor de tous mes rêves périssables. J'en appelle au désert de sable qui me fera trouver de l'or. Je m'en irai l'âme et le corps guidé par un commun accord de tous mes sens insatiables. J'en appelle à Dieu et à diable qui me feront trouver la mort. La fille près de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or comme une araignée dans sa toile.
Voilà, un hommage à Georges Moustaki, hein, disparu il y a très peu de temps, là, et pour ce titre intitulé Voyage, qui correspond bien justement à l'auteur dont on parle aujourd'hui avec Valérie, c'est Patrick Deville, qui est un grand voyageur dans presque toutes les parties du monde entier, puisqu'on retrouve, ça lui sert aussi de cadre et de scène à ses romans.
Oui, donc Patrick Deville, écrivain voyageur, et il se définit comme tel, ou écrivain enquêteur, il dit...
Oui, c'est le mot qu'il emploie.
Il emploie ces deux termes-là, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il voyage, il explique bien qu'il a un objectif littéraire de nourrir le personnage et l'histoire qu'il est en train d'écrire. Donc il est vraiment... à la fois voyageur et enquêteur, il va sur place, il s'imprègne, il se documente, il valide des informations qu'il a pu certainement récupérer en étant à Saint-Nazaire et en consultant les bibliothèques ou archives, comme il a fait pour donc les archives de l'Institut Pasteur, hein, pour tout ce qu'Alexandre Yersin a pu écrire et communiquer. Voilà, donc Patrick Deville, écrivain, voyageur, enquêteur.
Voilà, alors ce sont, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est sous une forme romancée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, le fond est tout à fait vrai, mais ce ne sont pas des livres d'histoire, je veux dire pur. Hein. Il y a toujours un accompagnement, par exemple, c'est le cas dans Pura Vida, hein, un de ses livres paru en 2004, où Deville voyage en Amérique centrale en compagnie de l'aventurier américain du 19e siècle, William Walker, hein, donc il est à ses côtés, et ici dans Kampuchea, hein, le livre que j'ai lu, donc plus récent puisqu'il est de 2011, on retrouve aux côtés de l'auteur, on retrouve André Malraux qui a été beaucoup dans ce sud-est asiatique, on retrouve Graham Greene, on retrouve Pierre Loti, on retrouve encore d'autres auteurs, Conrad, on retrouve des explorateurs comme Lagré, comme Pavie, ou des militaires également, comme Francis Garnier, a la réputation assez sulfureuse et assez difficile, mais c'est ça le bonheur d'être à ses côtés, c'est qu'on est dans le temps présent, mais dans la suite du récit, on se retrouve à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, sans s'en rendre vraiment compte. Hein.
Oui, c'est ça. On apprend beaucoup d'histoire, de la grande et de la petite histoire, les deux aussi passionnantes, en faisant la connaissance de personnages qui ont été importants dans notre histoire, dans l'histoire de la médecine, par exemple, avec Alexandre Yersin, qui a été quand même l'homme qui a développé la culture de l'EVA en Indochine. Hein. L'EVA, c'est l'arbre à caoutchouc. Et donc, déjà à l'époque, il a travaillé avec Michelin dans la fabrication des pneus. Il a également développé la culture de l'arbre à quinine, la quinina, hein, et la coca aussi, hein, qui était à l'époque bien sûr une plante médicinale. Donc ça a été un homme extrêmement important pour l'avancée de la médecine.
Alors, pour revenir sur Kampuchea, alors Kampuchea, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom du Cambodge, hein, le Cambodge qui avait changé de nom en 1975 avec l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir. Donc, le Cambodge est devenu donc le Kampuchea démocratique. Donc, Patrick Deville fait démarrer son récit, je l'ai dit tout à l'heure, en 1860, à l'occasion de la découverte des temples d'Angkor par Henri Mouhot, et ensuite on le suit jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'en 2010, et puis le procès de Douche. Hein. Douche, c'était ce tortionnaire qui dirigeait le camp S21, une école transformée en camp d'internement, de torture et de mort au Cambodge. Et il est d'ailleurs au Cambodge au moment où se déroule le procès de ce personnage. Il revient donc sur l'histoire du Cambodge depuis 1860 jusqu'à maintenant, avec tous les conflits qu'a connu le Cambodge, mais tous ses voisins, hein, le Laos, le Vietnam, la Birmanie, on parle de la guerre d'Indochine, on parle de la guerre du Vietnam, après de l'arrivée donc des Khmers rouges au pouvoir à Phnom Penh de 1975 à 1979, et ensuite ils ont été chassés du pouvoir par les troupes vietnamiennes. Donc on se retrouve aux côtés, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres gens qui ont gravité dans cette période-là. Alors ce qui est assez intéressant et aussi un peu ambigu parfois, c'est qu'on se trouve dans cette tiédeur d'un pays très très intéressant du point de vue culturel. Hein. On imagine même la chaleur impressionnante, l'humidité de ces régions avec tout ce peuple aussi intéressant. Et puis brusquement, on bascule dans l'horreur quand il nous décrit tous les massacres qui non seulement ont eu lieu durant la période du régime des Khmers rouges, mais auparavant, massacrent aussi des populations, que ce soit par les Français ou après par les bombardements américains. Et alors on revient sur toutes les images de ces bombes napalm et puis aussi de la fuite, que ce soit la fuite et la défaite des Français à Dien Bien Phu et la fuite ensuite des Américains qui sont partis, on va dire, un peu la queue entre les jambes. On a tous, quand on connaît cette époque-là, vu des reportages à la télévision, la fuite des représentants américains et autres. Donc j'ai trouvé que ce livre avait un grand intérêt. Alors c'est un point de vue personnel parce que je connaissais un peu l'histoire du lieu et donc on s'y sent beaucoup plus familier, mais pour les gens qui connaissent pas trop de choses, je conseille vivement donc de lire ce livre de Patrick Deville, où l'on retrouve des personnages comme Pol Pot, dont on a entendu parler, Douche qui était le tortionnaire, et puis tous ces jeunes révolutionnaires qui aujourd'hui sont soit décédés ou en prison à perpétuité, hein, des jeunes révolutionnaires qui sont, pour beaucoup, ont fait même leurs études en France, à Paris, qui ont vécu la vie parisienne et qui ensuite sont retournés dans leur pays pour purifier ce pays. Et c'est assez terrible de lire, je peux imaginer que même jusqu'aux porteurs de lunettes étaient considérés comme des intellectuels, donc enfants comme adultes étaient massacrés. Hein. Et puis, bien sûr, on peut imaginer qu'une émission comme la nôtre, avec des livres, il était bien certain qu'on n'aurait jamais été, vivant là-bas, Valérie.
Oui, surtout que, Daniel, tu as des livres devant toi et en plus, support des lunettes.
Voilà, c'est ça. J'avais toutes les tares pour ne plus exister au Kampuchea démocratique de Pol Pot.
Oui, et c'est... Alors moi, en tant que femme, bon, je ne sais pas. C'était certainement un handicap supplémentaire. En tout cas, voilà, Patrick Deville, pour apprendre ou réapprendre l'histoire, la grande histoire de ce monde avec voilà, ces très belles découvertes et ces atrocités. C'est une très bonne façon d'aborder peut-être l'histoire autrement parce qu'il y a ce côté romancé qui nous emmène hein, avec une écriture très vive, très documentée, mais aussi très intéressante et pas seulement sur l'histoire, sur des dates. Donc voilà, pour renouer avec l'histoire, hein, ça peut être une très bonne approche que de lire Patrick Deville.
Absolument, très très intéressant. On peut, comme on a encore quelques secondes, hein, quelques minutes, on peut poursuivre oui, sur la distinction qu'il fait justement. C'est intéressant aussi de voir la période dont il traite, de cette grande période des explorateurs, hein, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, les explorateurs ou en Extrême-Orient plutôt, de ces explorateurs qui sont partis avec très souvent des bonnes intentions, et qui ont apporté, qui sont restés d'ailleurs, il le cite, beaucoup sont restés vivre ensuite avec les populations qu'ils avaient pu découvrir et qui après ont été ont découvert ce que les colonisateurs ensuite allaient pouvoir faire, et on voit, il montre aussi très bien cette ambiguïté entre et cette différence qu'il y a entre explorateurs et colonisateurs. Oui. C'est important, et il le dit dans des termes assez, assez forts, mais c'est pas non plus un extrémiste, Patrick Deville. Je pense qu'il le dit bien, il l'explique bien, et c'est tout les bonnes choses qu'on peut retrouver, notamment de ce livre Kampuchea. Dans ce livre Kampuchea.
Oui, voilà, et Peste et choléra, on retrouve aussi cet univers des explorateurs. Alors déjà, ça nous fait rêver, c'est important. Hein, les grands explorateurs, ils ont existé, on ne les connaît pas tous. Donc Patrick Deville nous les fait les rencontrer, ça c'est une grande chance. Et puis on retrouve ces explorateurs avec leur amour des pays hein, qu'ils vont voir. Comme tu dis d'ailleurs, souvent ils restent y vivre. Alexandre Yersin est resté en Indochine et y est décédé en 1943, donc avec une approche extrêmement différente des colonisateurs. Donc voilà, c'est aussi une façon de peut-être mieux connaître ces grands explorateurs qui ont vraiment aimé découvrir, et tout en respectant les pays dans lesquels ils ont séjourné.
Voilà, et puis on peut peut-être, juste pour terminer, rappeler donc ce travail qu'effectue à la Maison des écrivains et des traducteurs étrangers Patrick Deville à Saint-Nazaire. Il a été membre d'abord, il en est aujourd'hui le responsable, secondé par deux jeunes femmes qui travaillent avec lui, puis ça reste aussi, puisqu'il accueille, hein, il y a des écrivains qui viennent en résidence, et puis bon, quand on parle traduction, les livres qui sont traduits en différentes langues, ça montre encore toujours ce caractère international hein, de Patrick Deville, qui, de manière sédentaire un peu, réussit aussi à faire là à Saint-Nazaire ce qu'il fait parallèlement dans ses voyages aussi à l'étranger, la découverte aussi de ces écrivains étrangers.
Oui, c'est, donc on est à la fois avec un enfant du pays, et puis on est en voyage, en grand voyage partout dans le monde grâce à Patrick Deville, donc à lire absolument.
Voilà, donc Peste et choléra, c'est le dernier. Oui. Kampuchea, il a déjà 2 ans, et puis on peut, il était, je crois même, Patrick Deville, il était encore, je crois, au Vietnam, juste un peu avant la fin de l'année dernière, donc avec ensuite certainement encore plein de projets en tête, et donc on vous demande expressément de lire Patrick Deville. Alors on est un peu chauvin, puisque en général les auteurs dont on parle ici, on les aime bien. C'était le cas également le mois dernier. Voilà, on remercie Gaëlle pour cette réalisation, et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci Gaëlle et merci Daniel.